Alors, on va aller dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. On est au début de l'Église. Et c'est à ce moment-là de la vie de l'Église et de la vie de chacun d'entre nous qu'il convient de poser les bonnes bases et de mettre les choses importantes en premier. Alors, on va relire ce texte que l'on connaît bien dans Actes 2, 40, 42, ou à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3 000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Voilà, tout à l'heure, j'ai voulu rechercher une histoire vraie et l'imprimer pour que on puisse se rappeler de cela. Ça s'intitule les priorités. Et là, nous sommes dans le cadre de l'instruction à la vie chrétienne, donc en train de poser les bases de la vie chrétienne, comme si nous découvrions tout, pardon. Et là, il faut poser les bases. Elles sont marquées dans ces quelques versets, toutes les bases. Alors, je vais vous lire ceci. Un jour, un vieux professeur de l'École nationale d'administration publique fut engagé pour apporter une formation sur la planification efficace de son temps à un groupe d'une quinzaine de dirigeants de grosses compagnies nord-américaines. Ce cours constituait l'un des 5 ateliers de leur journée de formation. Le vieux prof n'avait donc qu'une heure pour enseigner sa matière. Debout devant ce groupe d'élite, qui était prêt à noter tout ce que l'expert allait enseigner, le vieux prof les regarda un par un, lentement, puis leur dit: Nous allons réaliser une expérience. De dessous la table qui le séparait de ses élèves, le vieux prof sortit un immense pot de terre de plus de 4 litres qu'il posa directement en face de lui. Ensuite, il sortit environ une douzaine de cailloux, à peu près gros comme des balles de tennis, et les plaça délicatement un par un dans le gros pot. Lorsque le pot fut rempli jusqu'au bord et qu'il fut impossible d'y ajouter un caillou de plus, il leva lentement les yeux vers ses élèves et leur demanda: Est-ce que ce pot est plein? Tous répondirent: Oui. Il attendit quelques secondes et ajouta: Vraiment? Alors il se pencha de nouveau, sortit de dessous la table un récipient rempli de gravier. Avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux, puis brassa légèrement le pot. Les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux jusqu'au fond du pot. Le vieux prof leva à nouveau les yeux vers son auditoire et demanda: Est-ce que ce pot est plein? Cette fois, ses brillants élèves commençaient à comprendre son manège. L'un d'eux répondit: Probablement pas. Bien, répondit le vieux prof. Et comme s'y attendaient ses prestigieux élèves, il prit le pichet d'eau qui était sur la table et remplit le pot jusqu'au ras-bord. Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe et demanda: Quelle grande vérité nous démontre cette expérience? Pas fou? Le plus audacieux des élèves songea au sujet de ce cours et répondit: Cela démontre que même lorsque l'on croit que notre agenda est complètement rempli, si on le veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire. Non, répondit le vieux prof, ce n'est pas cela. La grande vérité que nous démontre cette expérience est la suivante: si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire rentrer tous ensuite. Il y eut un profond silence, chacun prenant conscience de l'évidence de ses propos. Le vieux prof leur dit alors: Quels sont les gros cailloux dans votre vie? Votre santé, votre famille, vos amis, et c'est là où moi je rajoute la vie chrétienne et la vie spirituelle, parce qu'on est dans un enseignement universitaire au niveau de commerce et de direction d'entreprise, il faut le transposer. Réalisez vos rêves, faire ce que vous aimez. Apprendre, ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de mettre ses gros cailloux en premier dans sa vie. Sinon, on risque de ne pas réussir sa vie. Si on donne priorité aux peccadilles, le gravier, le sable, on remplira sa vie de peccadilles et on n'aura plus suffisamment de temps précieux à consacrer aux éléments importants de sa vie, spirituelle et chrétienne. Ça, c'est moi qui le rajoute. Alors, n'oubliez pas de vous poser à vous-même la question, quels sont les gros cailloux dans ma vie? Ensuite, mettez-les en premier. D'un geste amical de la main, le vieux prof salua son auditoire et lentement, quitta la salle. Quelle leçon! Voilà. Et pour nous, c'est pareil. Nous sommes là au début de la vie de l'Église. Ce sont un petit peu comme les choses de valeur, les gros cailloux dans notre vie. Quels sont-ils? Eh bien, ce sont les choses suivantes. La Bible nous dit que vous et moi, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre hérités de nos pères. Ça ne veut pas dire qu'on va mépriser nos pères. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mon père. Mais il y a des choses qu'il ne savait pas, qu'il ne connaissait pas de la vie de l'Église et de la vie spirituelle. Et il n'a pas pu me les enseigner. Je les ai découvertes plus tard. Et il a fallu donner à ces choses-là la place qui leur convenait dans ma vie. Personne ne m'a dit comment il fallait le faire. Alors je regardais comment faisaient les autres. Voilà. Alors on apprend comme ça, c'est un peu empirique, mais bon, on arrive quand même à apprendre. On commet des erreurs, on se corrige après, parce que les autres qu'on a vus, forcément, ont aussi commis des erreurs. Et puis au bout d'un moment, on arrive à se caler sur ce que le Seigneur a établi dans sa parole. Nous avions une vaine manière de vivre, on ne mettait pas les choses dans le bon ordre, dans l'ordre d'importance. Et qui dit que, sans prétention, hein, qui dit que nous aujourd'hui, on fait comme il faut dans la vie chrétienne? Peut-être que nous avons besoin de revoir la place des cailloux, du gravier, de l'eau, pour que tout soit rempli, mais dans le bon ordre dans notre vie. Paul le dira même aux Thessaloniciens, vous avez appris de nous comment il faut se conduire. Donc nous sommes des exemples concrets. Et il le dira à Timothée, voilà comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Donc on y revient. Comment se conduire dans la vie chrétienne? Comment se diriger dans la vie de l'Église? L'Écriture nous dit qu'il persévérait. Un des cailloux. Je ne sais pas s'il y en a 12, du coup je n'ai pas compté. À mon avis, il y en a moins quand même. Sinon la prédication va être longue. Ils persévéraient, littéralement, ils étaient fortement attachés à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle et les devants de père. Lire et méditer la parole de Dieu va nous amener à aimer les frères et sœurs au bout d'un moment, à aimer l'Église au bout d'un moment. Et vice-versa, aimer des frères et sœurs, aimer l'Église va nous amener à lire la parole de Dieu pour savoir comment il faut se comporter, comment il faut se conduire en tant que frère, sœur, en tant que parent chrétien à l'égard de l'éducation des enfants. Il persévérait dans la fraction du pain et dans les prières. Et tout cela, c'est quelque chose qu'ils ont découvert. Et c'est eux qui ont donné une place importante dans leur vie à ces choses-là. On est avec les premiers cailloux. On est avec les bases de la vie chrétienne. Et nous allons voir, chemin faisant, que c'est comme une... Ça pourrait ressembler, on va dire plutôt ça comme ça, à une recette. Si on met les choses qu'il faut, comme il le faut, à l'arrivée, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est l'arrivée. Mais le départ, c'est que eux, au début, tous ceux qui furent baptisés en ce jour-là, qui acceptèrent la parole et qui furent baptisés, eh bien, ils ont commencé leur vie chrétienne en étant attachés à ces choses-là. Mes frères et sœurs, il faut que nous prions pour que l'ensemble de tout le peuple de Dieu prenne conscience de l'importance de ces choses-là. Et que le dimanche matin, on soit tous réunis, c'est important, c'est normal, c'est bien. Qu'on le soit à l'heure de la prière, c'est tout aussi important. Voilà. Et il faut prier dans ce sens-là. Ne dites rien à personne, parce qu'il n'y a rien à dire à personne, de toute façon. Ça ne concerne que moi. Mais ce sont les gros cailloux dans ma vie. Et je vais les placer là où il faut. Et parce que vous et moi, nous avons prié, nous sommes là aujourd'hui, j'allais dire, nous sommes encore là aujourd'hui. Parce que Dieu nous a secourus, Dieu nous a aidés. Parce que nous avons prié dans l'Église. Dans les églises où nous sommes passés, la bénédiction de Dieu s'est manifestée, non pas parce qu'on est les meilleurs que les autres, mais parce qu'on a tenu notre place. Et c'est comme cela, le train avance parce que le conducteur est à sa place, parce que tout le monde est à sa place, dans le train et sur les quais, partout où le train passe, bien, parce que chacun est à sa place et fait ce qu'il doit faire, le train passe. L'Église va de l'avant parce que chacun est à sa place. Le Seigneur est au ciel, il intercède pour nous. Nous sommes sur la terre, là où il nous a établis. C'est lui qui a voulu l'Église. Et nous sommes à notre place en donnant aux choses de Dieu une place importante. Dans notre vie, ce sont les gros cailloux. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ça aussi, c'est quelque chose de nouveau qui s'est imposé un petit peu à nous. C'est le Seigneur qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Et l'Église, elle relève du projet de Dieu, de la volonté de Dieu. Voilà, c'est ça l'importance de l'Église. Et moi, je le dis toujours, parce qu'aujourd'hui, avec les moyens de locomotion, excusez-moi, avec les moyens de se déplacer, alors on peut habiter à tel endroit et aller à l'église qui est 15 ou 20 km plus loin. Quand c'était que les vélos, c'était déjà plus difficile. Et avant les vélos, c'était encore plus difficile. Aujourd'hui, les moyens de déplacement font que, géographiquement, l'église n'est peut-être pas simplement constituée d'hommes et de femmes ou de frères et sœurs qui, géographiquement, habitent, si on met un compas et on fait un tour à 2 km à vol d'oiseau, pas forcément, mais ce qu'il faut, c'est se fixer. On le voit particulièrement dans les grandes villes, les grandes métropoles. Certains traversent toute la ville pour aller à l'église qui est à l'autre bout. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de trouver sa place et de se fixer. Voilà. Et pas par des considérations, des intérêts personnels, mais parce qu'on a prié, que Dieu nous a montré que notre place, elle est là, dans la maison de Dieu. Je bâtirai mon église. Et on la trouve par ville dans le Nouveau Testament, l'église. Et plusieurs par ville, ça commence par exemple à Corinthe, avec l'église sancrée et l'autre qui est plus dans la ville. Et l'église, c'est l'apôtre Pierre qui le dira parce qu'il le découvrira, c'est une race élue. Et ça, c'est un point important dans ma vie. Il y a une forme de génétique spirituelle. C'est une race élue, c'est-à-dire une race choisie. Dieu a choisi de mettre en nous une génétique qui vient de lui. Et au bout d'un moment, nous allons nous ressembler jusqu'à un certain point, avec des traits apparents. On le voit aujourd'hui, certaines personnes sont racées. Voilà, c'est pas du péjoratif en soi, c'est un constat. Voilà, nous, on est plutôt européens, et puis il y en a d'autres, ils sont plutôt asiatiques ou africains, etc. Il y a des races comme ça. Voilà. Eh bien, une race élue, il y a des traits qui apparaissent, qui se manifeste. Il ne faut pas en avoir honte. Il ne faut pas être gêné par cela. C'est ce que Dieu a voulu. Il a choisi. Et au bout d'un moment, il y a une ressemblance qui s'établit. Il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent, mais au sein d'une même race, tout le monde se ressemble d'une certaine manière. C'est ce que le Seigneur a voulu. Eh bien, il faut laisser faire cette œuvre-là en nous. Il ne faut pas résister. Non, mais moi, je ne veux pas être comme les autres. Bien sûr. Mais le Seigneur a voulu que ce soit quand même une race qui lui appartienne. Et il a choisi que les choses évolue dans notre cœur, dans notre vie, de telle et telle manière. Un service royal, un culte que nous apportons à Dieu. Et là, c'est même pas la peine de le dire, parce que c'est complètement inutile. Se rassembler pour célébrer Dieu, ça devient spirituellement naturel, ou naturellement spirituel, comme vous voulez. C'est quelque chose qui se fait tout simplement dans notre vie, par l'action de l'Esprit de Dieu. Et c'est important qu'au moment du culte que l'on célèbre, le peuple de Dieu se rassemble dans sa totalité et qu'il y ait de la place pour tout le monde. Une nation sainte, c'est l'Église. Ça veut dire qu'il y a des lois, c'est une nation, il y a des frontières. Et puis il y a une citoyenneté. Aujourd'hui on en parle, éventuellement la déchéance de la citoyenneté pour certaines raisons, notamment parce qu'on ne respecte pas les lois et les personnes. Mais nous sommes une nation sainte, ça veut dire qu'il y a des lois que Dieu a établies et que nous sommes appelés à respecter dans sa parole. Et elles sont diverses et variées, les lois, résumables à 10, les 10 commandements. Mais elles sont diverses et variées. Le mariage, par exemple, pour parler de quelque chose qui de temps en temps défraie la chronique, le mariage, il y a des bases qui sont posées dans les Écritures et qui doivent être respectés et mis en avant. Il y a avant le mariage et il y a après le mariage. Et on ne peut pas vivre avant ce que le Seigneur a prévu pour après. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres. Voilà. Et ça, c'est important. Ils étaient ensemble dans le même lieu. Ça veut dire qu'il y avait des choses en commun entre eux, Et ça, c'est un point fort de la vie chrétienne. Et quand il arriverait que nous nous déplacions pour des raisons familiales ou professionnelles, on va naturellement rechercher l'Église. Voilà. Et on va se ressembler avec ceux qui sont là, parce que c'est une race élue. Il y aura des différences, mais il y aura beaucoup de points communs. Nous, souvent, on focalise sur les différences. Ben, tiens, ils ne font pas comme nous, etc. Mais regardez ce qui est en commun. Parce que dès que quelque chose que nous devrions avoir en commun est absent, ça nous fait réagir. Ah non, mais non. Le Seigneur est celui qui doit avoir la première place. Et on doit pouvoir nous appeler chrétiens. C'est notre citoyenneté, c'est notre carte d'identité. Et ça aussi, c'est un point fort dans notre vie. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas dit, mais tu es chrétien, toi. Parce qu'ils en sont arrivés à cette conclusion. Parce que si les gens sont plutôt enclins à nous dire, mais toi, tu es comme nous, on ne voit pas où est la différence entre toi et nous. Ça doit nous interpeller. Ça ne veut pas dire que c'est un compliment en disant, on a réussi à se fondre dans la masse et à être comme eux. Ça veut dire que peut-être on a trop réussi à se fondre dans la masse et à être comme eux, justement. Non, toi tu es chrétien. Quand on est avec eux, ils savent que, et pourtant on leur a rien dit, que jusqu'à un certain point ils peuvent plaisanter sur tout, nous inviter dans tout, et de temps en temps ils vont dire non mais, toi c'est vrai que, il y a une différence. Et nous sommes un peuple acquis. Le peuple c'est la langue commune, parle la même langue. Ils sont ensemble parce qu'ils sont rachetés. Et ça c'est l'Église. Ils étaient tous dans le même lieu. Et ça, c'est un point important. C'est pour cela que l'Église, comprenez ce que je veux dire, c'est pas une Église de maison, même si au début de l'histoire, ils se réunissaient dans les maisons. Mais ce n'est pas une Église de maison dans le sens confort. Je vis l'Église chez moi, tout seul, avec les membres de ma famille, voire quelques amis. C'est pas ça, l'Église. L'Église, c'est autre chose. Et ce doit être un point important dans notre vie, l'Église. D'ailleurs, si on est là, c'est sûr que c'est un point important dans notre vie, forcément. Mais comme on est en train de rappeler les bases de la vie chrétienne, c'est bien de souligner ça. Et puis, ils avaient, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Et là, on commence à parler des finances. Et ça, c'est quelque chose qui peut être surprenant. Et pourtant, c'est une base de la vie chrétienne. Alors, on rentre dans le détail. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Il y a quelque chose de particulier là, c'est qu'ils avaient des biens et du produit de leurs biens. Ils sont allés jusqu'à un point, c'est vendre tout, mais le Seigneur ne le demandait pas, mais ils sont allés jusqu'à vendre tout. C'est pour dire que, dans la mesure où on commence à respecter ce que le Seigneur a dit, on peut éventuellement même aller jusqu'au bout de cette logique-là, sauf que ça ne s'est pas reproduit dans l'histoire, mais eux, ils l'ont vécu. Et apparemment, ils l'ont bien vécu, sauf Ananias et Saphira, qui le vivaient de travers, parce que leur cœur était de travers, mais eux l'ont bien vécu. C'est quand même pas ce que le Seigneur demande. Il y avait le produit des biens, et la finalité, c'était de pourvoir aux besoins. Vous et moi, à quel moment avons-nous compris l'importance de la dîme et des offrandes? C'est pas au bout de 10 ans de conversion, c'est tout de suite. C'est une vérité spirituelle. C'est un caillou dans notre vie. Et pourquoi c'est un caillou dans notre vie? Tout simplement parce que ça, c'est avant la loi. Comme ce matin, on parlait un petit peu d'un process spirituel, bien celui-là en est un, dans un autre domaine auquel on ne s'attendrait pas forcément. Dans Genèse 14, on est avant la loi, avant l'Église, avant le peuple de Dieu, on est avant tout. Et voilà que Abraham rencontre Melchisédek. À Genèse 14, 18, Abraham rencontre Melchisédek, ou plutôt Melchisédek vient rencontrer Abraham. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. C'est la Sainte Cène, qui viendra beaucoup plus tard. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Pour en savoir plus, il faut lire Hébreu, chapitre 7, et à partir de là, on voit que ce Melchisédek était sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, rendu semblable au Très-Haut. Et donc, il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et voilà la base. Elle est avant la loi, elle est avant l'Église, elle est avant tout. Elle est comme la base de notre relation entre Dieu et nous. Lui, il a établi de son côté le pain et le vin, et Abraham, de son côté, a établi qu'il a compris, qu'il a ramené à Dieu la dîme de tout ce que Dieu lui avait donné. Le pain et le vin, c'est l'alliance, et d'une certaine manière, la dîme, c'est aussi une fidélité de notre égard envers Dieu qui est fidèle, le premier. Tout ce que nous avons, ce sera écrit plus tard, ce sera explicité plus tard, mais tout ce que nous avons vient de lui. Et la dîme et les offrandes, tant que nous n'avons pas compris que tout est à Dieu et que nous lui ramenons la dîme de tout ce qu'il nous a donné, n'est pas envisageable. Parce que tant qu'on l'envisage comme étant ce que je prends, qui est à moi, et que je te le donne, il y a une déchirure. Ça ne va pas se faire avec joie, alors que le Seigneur veut que nous donnions avec joie. Comment vais-je donner avec joie? Eh bien, il me dit, voilà ce que je t'ai donné, et il attend, il n'a même pas besoin de le demander, et il attend que nous disions, mais ça Seigneur, c'est pour ton œuvre, ça c'est pour toi. Et dès lors que nous comprenons cela, nous nous rentrons dans un process spirituel. Alors, j'ai cherché, entre midi et deux, je l'ai trouvé sur Internet, ce dont on m'a parlé cette semaine. C'est le témoignage, je n'avais jamais entendu parler de lui. On connaît tous Colgate. Ah, Colgate, Palmolive et tout le reste. Colgate a vécu au 19e siècle. Il est mort en 1857, je crois. Et voilà ce qui est écrit de lui, son témoignage. Il y a bien des années, un jeune garçon rencontrait un jour un vieux capitaine au bord du lac Erie, aux États-Unis. Reconnaissant l'enfant, le vieillard le salua. « Eh bien, William Colgate, où vas-tu ? » « Je ne le sais pas moi-même », fut la réponse. « Mon père est trop pauvre pour me garder à la maison, et je dois maintenant pourvoir à mes besoins. » « Il n'y a rien de malheureux en cela, mon garçon. Voici l'important, marche droit, et tu t'en tireras facilement. » Le jeune garçon expliqua qu'il n'avait aucune connaissance spéciale. Sinon qu'il avait aidé son père à fabriquer du savon et des chandelles, des bougies. « Bien, mon garçon, nous allons prier ensemble. Après cela, je te donnerai un conseil et une clé certaine qui t'ouvrira la porte du bonheur. » Tous les deux s'agenouillèrent au bord du lac et le vieillard pria avec ferveur pour le jeune garçon, puis il lui dit « Quelqu'un doit nécessairement devenir le premier fabricant de savon à New York. Pourquoi ne serait-ce pas toi aussi bien qu'un autre ? Sois un homme honnête. Donne-toi tout entier à Christ. Chaque dollar que tu gagneras, donne au Seigneur ce qui lui appartient, de droit. Fabrique un savon de bonne qualité. Sois fidèle en donnant toujours le poids requis. Si tu agis ainsi, je suis sûr que tu y réussiras et que tu seras bientôt un homme riche. » Quand on regarde ce que c'est devenu. En arrivant dans la capitale, William eut beaucoup de peine à trouver du travail. Les débuts furent difficiles, mais il se souvint des dernières paroles du vieux capitaine. Il s'appliqua, dès le commencement, à rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et il se joignit à l'Église. Lorsqu'il reçut son premier dollar, la question se posa, quelle est la part qui revient au Seigneur ? Puisque finalement, le vieux capitaine ne lui avait pas dit. Il savait que les Juifs devaient donner la dîme de tout ce qu'ils possédaient. Et il en conclut qu'il devait lui aussi donner la même part. « Si mon maître veut bien accepter la dixième partie de mon gain, je lui donnerai ceci. » Alors il préleva la dîme de chaque dollar qu'il gagnait. Ayant trouvé un emploi régulier, il devint vite l'associé du patron. Ce dernier mourut quelques années après, William devient le propriétaire de cette importante maison de commerce. Il fabriquait un savon de bonne qualité, il était juste dans toutes ses mesures, et il ordonna à son comptable de consacrer la dîme de tous ses revenus à Dieu. Ses affaires prospérèrent. Sa famille était bénie, il était riche comme jamais il n'avait osé l'espérer. Alors il décida de donner à Dieu sa double dîme. Sa prospérité s'accrut plus considérablement encore, si bien qu'il donna les trois quarts, les trois, 30%, puis les quatre dixièmes, 40%, et enfin la moitié de ses revenus. Chacun de ses enfants reçut une bonne éducation. Il s'arrangea pour vivre simplement avec une certaine somme et tout le reste de ses gains fut entièrement employé au service de son maître. Ses affaires ont continué dès lors à prospérer toujours davantage. Telle est l'histoire de William Colgate. Eh bien, je me suis dit, ce n'est pas un exemple à suivre dans le but de s'enrichir, mais je me dis, Seigneur, tu as posé des bases qui sont simples, qui sont d'ordre spirituel. Et si on respecte les bases d'ordre spirituel que tu as établies, eh bien, ça marche. Dans ce sens où on est béni. Alors je le rapporte à votre dimension et à la mienne, avant qu'on soit à cette dimension-là. Mais est-ce que, dans la mesure où nous avons été fidèles à Dieu par rapport à ce qui lui appartient, nous n'avons pas été bénis? Est-ce que nous avons manqué de quoi que ce soit? Parfois, ça a été juste, le passage a été délicat, mais nous pouvons témoigner de la fidélité de Dieu. C'est un des cailloux dans notre vie. C'est peut-être surprenant, mais ils l'ont compris dès le départ. C'est un principe spirituel qui nous amène à intégrer le fait que tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons vient de lui, et nous lui restituons une part pour son œuvre. Et lui, il a osé aller plus loin. Après, c'est chacun. Hein. Eux, ils étaient allés jusqu'à tout. Ils vendaient tout, ils mettaient tout en commun. Mais ça a marché aussi, puisqu'il ne manquait de rien. Et apparemment, personne ne se plaignait. Le Seigneur ne nous demande pas d'aller jusqu'à tout. Il a posé une base. Après, s'il y en a qui veulent faire plus, dans la mesure où la base est saine, je me dis que si on construit un peu plus fort sur la base, ça doit être sain aussi, tant que le cœur est sain également, mais il faut que celui de tout le monde le soit. Parce que sinon, ça va être déséquilibré. Et le Seigneur ne nous envoie pas dans des situations compliquées. Il a posé des bases d'une simplicité absolue. Et c'est une question de comprendre qu'on est débiteur de Dieu. Tout ce que j'ai, tu me l'as donné, Seigneur. Pourquoi est-ce que nous prions pour nos enfants? Et là, ce n'est pas pour 10% qu'on prie. C'est qu'on veut qu'ils donnent tous leur vie à Dieu, parce qu'ils lui appartiennent. Tu nous les as donnés, Seigneur, mais on ne veut pas qu'ils se perdent pour être utilisés ailleurs, on veut qu'ils soient pour toi. Et bien, cette base-là, elle est dans tous les domaines de notre vie, y compris celui-là. Et ils étaient ensemble, au temple. Le temple, c'est le lieu de rassemblement et de prière. Mes frères et sœurs, j'en suis convaincu, quand l'Église sera ensemble, dans sa totalité, hormis les impondérables, au moment de la prière, nous allons voir ce que nous allons voir. Des choses vont changer. Autrement dit, si nous voulons que des choses changent, commençons par prier. Chez nous, et quand on se réunit, à l'heure de la prière. Voilà. Donc cette semaine, on ne va pas recommencer, mais je pense que la semaine d'après, on va recommencer des soirées de jeûne et prière, comme on l'avait fait du mardi au vendredi, de 19h à 20h, 20h15. Voilà. Et c'est important de se tenir comme cela ensemble. Ils étaient ensemble, dans le temple et dans les maisons. La maison, c'est le lieu de vie, c'est le lieu de bénédiction. C'est là que la vie chrétienne, eh bien, elle devient, on ne peut plus, concrète. C'est dans nos maisons que l'on va voir si ce que l'on croit, on le vit, si véritablement nous marchons avec Dieu. Et ils partageaient tout, leur pain, et ils le prenaient avec joie et simplicité de cœur. Autrement dit, le spirituel n'est peut-être pas là où on l'attend. C'est-à-dire qu'on pense que le spirituel s'exprime prioritairement quand on est rassemblé au temple. Oui, oui, c'est sûr. Mais dans les maisons, tout autant. Ni plus, ni moins. En se nourrissant, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, dans ce qu'on fait tous les jours avec joie et simplicité de cœur, le spirituel apparaît. Être au contact d'un chrétien doit être quelque chose de joyeux, d'agréable pour tout le monde. Et au quotidien, pas simplement dans la maison de Dieu à l'heure de la prière. Parce que c'est évident qu'à l'heure de la prière, tout ce qu'on dit, c'est bien, puisqu'on prie. Donc on ne peut dire que de bonnes choses. Tout ce que l'on pense, c'est bien, puisqu'on est concentré dans la prière. C'est après que tout ce qu'on dit n'est peut-être pas très, très bien. C'est après que tout ce que l'on pense n'est peut-être pas excellent, excellent. Voilà, c'est en dehors du temps de prière que les choses vont s'analyser et surtout par ceux qui, eux, pour l'instant, ne participent pas à la prière. Voilà. Donc, eux, la spiritualité, vont la voir dans un autre domaine, c'est la vie de tous les jours, tout simplement. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, c'est-à-dire qu'ils se réunissent et ils célèbrent Dieu et ils élèvent la voix pour bénir le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ils trouvaient grâce, c'est-à-dire que leur comportement envers les hommes, eh bien, faisait que on les aimait. Ça n'a pas empêché de les persécuter plus tard, hein. Faut pas faire de l'angélisme. Mais on les aimait par leur comportement, par leurs attitudes de tous les jours. Et le Seigneur ajoutait, et moi je veux faire cette lecture analytique presque, méthodique. Au verset 41, ils acceptent la parole, ils sont baptisés, c'est le point de départ. Au verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et on sent qu'entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a une chronologie. Il y a les gros cailloux. Mettons ces gros cailloux en place dans notre vie. Moi, je les ai notés comme ça. Ils persévéraient. Ils étaient fortement attachés à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain aux prières. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et là, il y a une dimension importante qui est liée à l'Église. Je bâtirai mon Église. Ils avaient tout en commun, dans ce sens où tout le monde avait intégré, ce qui revenait à Dieu dans leur vie. Et que la parole nommera autrement dès le livre de la Genèse, les dîmes et les offrandes que l'on donne à Dieu. La dîme étant la base, les offrandes étant en plus. Trop souvent, on pense que la dîme, c'est le maximum. Non, c'est le minimum. Faisons nos expériences avec Dieu. C'est lui qui a dit, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez. Eh bien, William Colgate, il a mis à l'épreuve, et il a vu, c'est dommage d'arriver à parler comme ça, mais il a vu que ça marchait, ça fonctionnait. Et ce n'était pas un calcul dans sa vie, puisque le texte que j'ai lu, s'il est fidèle à l'histoire, montre que ce n'était pas un calculateur, puisqu'il n'avait rien, il venait de rien. Donc déjà, tout ce qu'il obtenait, c'était une grâce. Mais il a vu qu'en respectant fidèlement ce que Dieu établissait, et il était béni. Alors il a apporté plus à Dieu, il a été encore plus béni. Quand ça arrive comme ça, qu'est-ce que vous faites? Ah non, mais c'est-à-dire, c'est pas possible que tu me bénisses autant. Je vais te donner encore plus. Au bout d'un moment, il faut tenir la route parce que la bénédiction de Dieu, elle peut être grande. Elle peut être volumineuse. Mais si on est fidèle dans les petites choses, Dieu confie les grandes. Et là, le Seigneur nous attend peut-être dans les petites choses. Alors quelqu'un dira, oui, mais moi, avec les moyens modestes que j'ai, ce que je peux apporter à Dieu, c'est pas grand-chose. J'allais dire, on s'en fiche. Dieu n'a que faire de la quantité. Il a simplement pris en exemple cette veuve, et c'est très bien qu'on n'ait pas son nom, mais elle a mis. Et elle a mis de son nécessaire, pas de son superflu. Et elle a voulu être fidèle à Dieu, et le Seigneur l'a prise en exemple. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Et de toute façon, et je termine sur ce point, concernant la dîme, il ne peut pas en être autrement qu'à un moment donné, ça nous coûte. Parce que si ça ne nous coûte pas, c'est du superflu. Si ça nous coûte, c'est du nécessaire. Et quand nous sommes fidèles, parfois sur la base du nécessaire, avec sagesse, puisque le Seigneur a mis des bases à ce niveau-là, ça veut dire que nous avons intégré que tout ce qu'il a fait pour nous, ça lui a coûté. D'une manière ou d'une autre, ça nous coûte. Ça lui a coûté. Le sacrifice à la croix, ça lui a coûté. Tout ce qu'il a accompli pour nous, il l'a payé, et il l'a payé cher. Et le Seigneur nous demande, dans la conversion, d'abdiquer, d'ouvrir notre cœur, de nous repentir. La conversion, ça coûte. Si quelqu'un veut marcher avec le Seigneur, simplement disant, oh ben moi j'aime bien, là, ça me plaît, je voudrais me faire baptiser, personnellement, ce qui me concerne, je lui dirais, hop, il manque une compréhension de base. Et on ne peut pas aller plus loin tant que vous n'avez pas compris. C'est le sacrifice à la croix. C'est la repentance. Voilà. Et à partir de là, bien dans tous les domaines de notre vie, à un moment donné, ce qu'on va faire pour Dieu, même en temps, on le prend sur autre chose. Mais c'est bien que ce soit ainsi. parce que c'est comme cela que le Seigneur a tout fait pour nous. Et ils étaient ensemble au temple, dans les maisons, ils faisaient tout avec joie et simplicité de cœur. Ils trouvaient grâce auprès de tout le monde, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On n'est qu'au début de l'année, mes frères et sœurs, moi j'ai envie de dire rendez-vous à la fin de l'année. Voilà. Je ne sais pas combien on sera de plus à la fin de l'année, mais dans tous les cas, quand bien même ce serait plein, c'est pas assez. Il y a tellement qui ne connaissent pas le Seigneur. Voilà. Mais comment les choses évolueront en nombre de personnes sauvées parce que nous allons respecter les gros cailloux dans notre vie. Alors que le Seigneur soit béni. Et on va prier, se recueillir, peut-être laisser le temps à quelqu'un ou à quelques-uns de reconsidérer les priorités dans leur vie. Et peut-être de dire, ben Seigneur, c'est vrai que sur ce point, sur celui-là, malgré le fait que nous soyons là cet après-midi, ça ne veut pas dire qu'on a tout juste tout le temps. Malgré ce fait-là, sur ce point ou sur celui-là, aide-moi à mettre en place les choses de manière prioritaire, que tu sois honoré.